Un chercheur français devant les députés français aujourd'hui, le professeur Gilles-Éric Séralini est prié de s'expliquer. Ses conclusions sur la toxicité d'un maïs OGM et d'un pesticide ont fait sensation. Les images de rats avec de grosses tumeurs ont frappé les esprits. Léa Ticlette, bonjour.
Bonjour.
La publication de cette étude scientifique il y a quelques jours a eu un très fort retentissement, mais aujourd'hui elle est très critiquée. Pourquoi ?
Et oui, les travaux, vous le disiez, ont duré 2 ans. C'est une des études les plus longues sur les effets des OGM. Mais pour les scientifiques, il y a eu quelques problèmes de méthode, aucune définition de l'hypothèse recherchée, par exemple. Donc, un cahier des charges mal défini. Impossible de savoir comment étaient nourris les rats et s'ils étaient en surpoids. Des facteurs qui jouent sur l'apparition de tumeurs. Surtout que le type de rat choisi pour l'étude est connu pour en développer déjà naturellement. Autre problème, le plan de communication lié à la publication de l'étude. Le professeur a accordé l'exclusivité à l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur. Du coup, impossible pour les journalistes et surtout les scientifiques de se faire une opinion avant publication. Le débat était donc faussé. Mais à en croire Glenn Millot, chercheur de l'Association des sciences citoyennes, le but n'était pas vraiment de prouver les dangers des OGM.
L'idée, c'est de montrer qu'il y a vraiment des failles dans l'expertise et que si on creuse un peu plus, il y a au moins des signaux. Après, l'étude elle-même, elle n'appelle pas à montrer que le risque est avéré, elle appelle à montrer que les études précédentes sont pleines de lacunes et qu'il faut absolument les pousser un peu plus loin, que les données des études précédentes soient publiques, ce qui n'est pas le cas actuellement, et que d'autres études soient faites pour confirmer, approfondir ou infirmer, ne servent pas à autre chose.
Et ça a été plutôt efficace, hein, Léa, puisque depuis, beaucoup de questions sont posées sur les OGM.
Disons que la porte est ouverte. Les tests pour autoriser l'importation d'OGM en Europe s'étendent généralement sur 3 mois. Et vu que cette étude a été menée sur le long terme, elle a tout de même semé le doute. D'ailleurs, même le lobby pro-OGM, l'Association française des biotechnologies végétales, l'a admis. Les tests pour la mise en circulation des OGM peuvent être améliorés, ils peuvent être affinés.
De leur côté, les autorités françaises ont choisi la prudence.
Oui, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de se prononcer sur le bien fondé de l'étude, mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a d'ores et déjà affirmé, il serait possible d'interdire l'importation si des faits nouveaux étaient avérés. Même précaution chez nos voisins européens, l'agence sanitaire allemande par exemple, s'est elle aussi penchée sur les résultats du professeur Séralini. Et en Russie, c'est carrément la suspension des importations des OGM Monsanto qui a été décidée pendant que les chercheurs examinent l'étude.
Alors ce que les États attendent en fait, hein, c'est une décision de l'Europe.
Et oui, une décision de la Commission européenne qui tarde pour l'instant à venir, mais qui sera vraisemblablement en faveur de l'importation des OGM, parce qu'au final, l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments, a rejeté l'étude, notamment pour ses problèmes de méthodologie.
Alors, on voit, il y a beaucoup de critiques autour de cette étude, mais certains considèrent Gilles-Éric Séralini, comme un lanceur d'alerte, au même titre qu'Irène Frachon, il y a quelques années, pour le Mediator.
Et oui, c'est le cas notamment de Marie-Christine Blandin, sénatrice Europe Écologie Les Verts, d'où sa proposition de loi pour la création d'une haute autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement. On l'appellera plus simplement la HAEA. Marie-Christine Blandin est partie d'un double constat pour rédiger sa proposition de loi.
Quand on fait des rapports, des investigations, des études, on s'aperçoit toujours qu'on trouve des gens qui sont normalement des gens au service de la chose publique et qui étaient parallèlement payés par les laboratoires ou bien des firmes. Donc leur avis n'était pas neutre. Et la deuxième chose, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un dans l'histoire qui à un moment donné a dit « mais attention, il y a un danger ou bien il y a un risque dont la hiérarchie n'a pas voulu faire l'écoute, n'a pas voulu donner suite à leurs alertes ».
Le but, c'est donc de créer une structure qui puisse recueillir les alertes et permettre de découvrir plus rapidement un potentiel danger sanitaire, comme celui du Mediator, on le disait, ou celui des éthers de glycol. Ce serait un moyen de contourner la pluralité des agences sanitaires en France, mais aussi de protéger un lanceur d'alerte de sa hiérarchie et de ses pairs, qui pourraient l'attaquer ou le diffamer, comme ça s'est déjà vu. Au final, le rôle de cette haute autorité serait surtout de dicter des règles de conduite et de chapeauter les recherches scientifiques, sans forcément faire elle-même les investigations, comme le dit Glenn Millot.
La haute autorité qu'on propose, elle n'aura pas pour rôle de commander ses expertises. Elle aura pour rôle d'encadrer la façon dont elles sont produites, donc de poser des principes de base sur la façon dont les expertises, les conflits d'intérêts, la transparence, c'est en fait sur la mise en œuvre de façon générale de la façon dont les agences conduisent leurs expertises, leurs contre-expertises.
L'indépendance des autorités de santé serait donc garantie. Le texte doit passer au Sénat le 15 octobre prochain.
Merci Léa Ticlette pour ce focus.